C'est un grand désavantage de ne pas recevoir une bonne éducation dès son jeune âge. On ressent un cuisant embarras d'ignorer les choses que savent les autres.
L'éducation avant notre instruction publique, troisième épisode, les collèges jésuites.
Ce que je garde aujourd'hui de l'enseignement des jésuites, c'est trois choses qui m'ont marqué.
L'écrivain et poète vénézuélien Gustavo Ferrero.
La première, c'est l'esprit de concurrence. Il y a vraiment un désir de pousser les étudiants au bout. Et comme je me rappelle souvent, les premiers jours où on arrive à l'université, il y a les grands frères de la compagnie, les principales, qui nous reçoivent et qui nous a dit, je me souviendrai toujours de ça, vous avez le devoir d'être chacun le meilleur. Donc ça illustre très bien à quel point, et pour les jésuites, c'est très important de se surpasser et puis surtout de recevoir une formation intellectuelle très forte. On doit être très très bien formé dans les disciplines juridiques, par exemple. Les jésuites constituent une école de rhétorique extraordinaire, une école de séduction, il faut le dire, de persuasion, qui est vraiment merveilleuse et qui met à la disposition des étudiants une machinerie argumentative extraordinaire. Cette machinerie, quand elle tombe entre les mains d'un homme bien entraîné pour la politique ou pour les droits, mais surtout pour la politique, peut produire des effets terribles. Et on pense bien entendu à cet homme-là qui est vraiment le symbole de l'enseignement supérieur des jésuites, à Fidel Castro, qui en est sorti et qui a gardé des jésuites cette capacité oratoire, rhétorique extraordinaire et que même dans la conjoncture actuelle continue d'appliquer une maxime jésuitique, être capable de défendre sa foi dans toutes circonstances.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Roger aujourd'hui, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Nous allons parler pas vraiment de l'expérience mondiale des jésuites, mais peut-être du rôle de modèle, notamment pour l'enseignement secondaire en France, des jésuites. Philippe Roger, vous avez publié un livre chez Beauchesne, une maison d'édition dont la devise est « Beauchesne croit », avec un accent circonflexe sur le « i ». Le goût de l'excellence, excellence. Quatre siècles d'éducation jésuite. Dites-moi, la Compagnie de Jésus, elle est fondée, elle est adoptée par la papauté en 1539-1540. Ignace de Loyola, au début, il n'avait pas pensé faire de l'enseignement.
Non, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de formation. D'abord parce qu'un collège, pour lui, c'était quelque chose qui allait alourdir la volonté apostolique de la Compagnie. Donc il va se laisser convaincre.
Il va se laisser convaincre parce que un des mots d'ordre de la Compagnie, c'est l'obéissance au pape. Et quand il lui est demandé en haut lieu de fonder un collège à Messine, en Sicile, à Goa, en Inde ou en Paris, il se laisse convaincre.
Il se laisse convaincre, entre autres, par un de ses condisciples, le père Nadal, qui lui explique tout l'intérêt que peut avoir un collège, à la fois pour la formation des futurs jésuites, mais aussi pour des non-jésuites.
C'est la formation des jésuites très longue avec les exercices spirituels qui va servir de modèle pour la formation des non-jésuites, des élèves des collèges qui sont en 1599, je ne dis pas cette date au hasard, on y reviendra, quelques 200 déjà, avec à Paris un collège qui précède le lycée Louis le Grand.
Oui, le collège Clermont.
Un des premiers établissements fondés.
Le premier établissement en France.
Et puis un autre très grand collège au XVIIe siècle, il y a peut-être 100 jésuites en permanence dans cet établissement situé dans la Sarthe d'aujourd'hui, qui est...
Le collège de la Flèche.
Dont un des élèves les plus connus est...
René Descartes.
Qui y a passé 8 ans. On va entendre le premier de nos pères jésuites. Alors vous connaissez tout le répertoire des... Père jésuite, le père Adrien de Moustier, en 1979. Qui c'est, Adrien de Moustier?
Un Lyonnais, jésuite, héritier évidemment des grandes familles liées à la soierie, mais spécialiste de la spiritualité.
Oui, mais enfin, c'était quelqu'un qui était capable de repérer l'origine de votre cravate
si elle était,
sans même la toucher.
Voilà, si ouais. Elle était de bonne soie.
Ah oui, parce que toutes les connaissances sont requises dans l'enseignement jésuite qui se déroule au XVIIe siècle ainsi.
Le professeur parle, le premier. Il fait ce qu'on appelle alors, selon l'usage médiéval, la leçon. Car on reste encore dans un monde où le livre existe, bien sûr, mais il est encore très cher. Et 100 ou 150 ans avant, il était rarissime. Celui qui a le livre lit aux autres. Il lit devant les autres, si vous voulez. Donc, le maître parle le premier, lit le texte, le commente, l'explique. L'élève écoute et prend des notes. Intervient un second temps, après cette leçon, la lectio, la lecture, qu'ils appellent la répétition, ou la répétition en latin. Un ou deux ou trois dans la classe vont redire ce qu'ils ont compris. Ce qui permet aux autres, pendant ce temps, de vérifier leurs notes. Ce qui va leur permettre aussi d'avoir un cahier de notes, à la fin de l'année ou à la fin de leurs études, dans lequel il y aura un ensemble de prélections, si vous voulez, qui le dispensera d'avoir une bibliothèque énorme qui est encore très chère. Pendant cette répétition de l'élève, entre tout de suite une structure de concurrence. C'est-à-dire que d'autres dans la classe peuvent intervenir si le garçon qui répète se trompe. Alors ça, c'est le second temps. Le troisième temps qui va intervenir, pratiquement en fin de semaine, c'est ce qu'ils appellent la concertation, le petit combat, si vous voulez, d'une certaine façon, et qui est dérivé alors des disputes de philosophes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que un élève ou plusieurs, ayant finalement, grâce à cette introduction, cru qu'il avait assimilé, si vous voulez, ce qu'on lui avait dit, s'est fait une opinion personnelle, par exemple, de tel auteur, va soutenir devant les autres son opinion.
Ce qu'on appellerait aujourd'hui l'exposé, parce que ce qui est central dans cette pédagogie, qu'on dirait aujourd'hui active, c'est le face-à-face des élèves dans l'émulation, les uns et les autres.
Oui, c'est un enseignement qui est mutuel, tout en étant collectif, mais aussi individuel. C'est-à-dire que c'est toujours un enseignement actif, dans lequel l'activité de chacun sert aux autres, sert à l'ensemble de la classe. À une époque où les effectifs, d'ailleurs, sont très très nombreux.
Oui, 100 élèves
bien
par niveau, à la flèche, et sans doute davantage
d'ailleurs. Oui. Et donc, il faut que le professeur puisse s'appuyer sur un travail d'émulation, de concurrence entre les élèves, qui à la fois se surveillent, s'écoutent et se corrigent.
Mais vous dites individuel. Prenons le cas de Descartes. Il est élève à la flèche, il n'est pas en bonne santé. Alors, on le surchauffe à tout instant, ou bien on prend un soin particulier de lui?
Voilà, surtout de l'individu, c'est-à-dire qu'on lui permet, par exemple, de se lever plus tard. Parce que les levées sont très matinaux à l'époque. Donc, pour qu'il puisse, évidemment, en fonction de sa santé, ne pas trop se fatiguer. Et puis, il a aussi l'autorisation de rester couché, de rester au lit, là où il peut réfléchir ou méditer. Donc, on adapte véritablement l'organisation de la journée à la personne et à ses possibilités. Sachant que s'il est un petit peu faible physiquement, en tout cas, on sait qu'intellectuellement, il peut donner le meilleur de lui-même.
Un petit mot quand même de votre expérience personnelle. Vous avez été préfet des études, on dira ce que c'est, dans un collège d'une congrégation proche des jésuites. Alors, quand vos élèves étaient malades?
Il faut prendre d'abord connaissance de son état de santé, éventuellement aller le visiter, aménager son parcours scolaire en fonction de son absence ou des cours auxquels il ne pourra pas assister. On individualise et on accompagne. Et le premier devoir, d'ailleurs, comme le disait Ignace dans ses textes, c'est de veiller d'abord à la santé. Le recteur, il doit d'abord veiller à la santé des membres de la communauté.
Alors attendez, le recteur, le préfet des études, le préfet de discipline?
Alors on va peut-être préciser, voilà, le recteur ce serait le proviseur actuel, le préfet de discipline ou des études ce serait le CPE ou le proviseur adjoint, un mélange un peu entre les deux, et puis on a ce qu'on appelle les régents ou les surveillants qui eux sont au contact direct des élèves.
Alors tout ça est organisé de manière très expérimental, c'est fondé sur l'observation des réactions des uns et des autres, et il y a un code de la route qu'on appelle 1599. C'est sa date de première vraie publication, Ratio Studiorum.
Voilà. C'est une méthode d'enseignement qui a été constituée à partir de l'expérience des jésuites. Alors, double expérience, celle lorsqu'ils étaient étudiants dans les universités parisiennes, où ils ont vu fonctionner avec des classes, des niveaux progressifs, et puis ensuite qu'ils ont commencé à appliquer, par exemple, au Collège de Médecine à partir de 1548. Et puis, une autre génération arrive, et il faut expliquer aux plus jeunes, évidemment, comment procéder. Et donc, on va constituer par un échange de textes, de versions de textes, en 1599, une manière de faire, une manière d'enseigner, une méthode d'enseignement, qui est l'héritage de cette expérience à la fois de ceux qui avaient été étudiants et de ceux qui y étaient professeurs.
À laquelle on ne coupe pas, mais en même temps on peut l'aménager dans la liberté. Alors, il y a une autre difficulté, vous avez dit... Il s'agit de former les meilleurs, ou c'est plutôt Gustavo Guerrero qui, d'entrée dans l'émission, le disait. Mais enfin, il s'agit aussi de travailler à la gloire la meilleure de Dieu, ad majorem Dei gloriam, la gloire la meilleure. Alors, comment les deux se combinent, la vertu religieuse et la connaissance humaine?
Les deux sont forcément liés pour Ignace et ses condisciples. D'abord parce qu'on est au temps de l'humanisme. L'idée, c'est d'essayer de trouver la place de l'homme dans la société, mais d'en être véritablement le centre et de la dominer. Pour la dominer, il faut entrer dans le domaine de la culture. Et donc, il faut l'acquérir. Alors, c'est ce travail qu'il va faire peu à peu et qu'il va organiser au travers des collèges. Mais dans le plan divin, l'idée, c'est qu'il faut que chacun développe au maximum ses talents. Et on a le devoir de les exploiter au maximum et d'être le meilleur dans son domaine.
Le plan divin, ça suppose aussi qu'on travaille ensemble. Le plan divin permet, beaucoup plus tard, dans l'histoire des jésuites, à la Providence d'Amiens, que Emmanuel Macron rencontre Brigitte Macron et ça se passe au théâtre. Dites-nous un mot de l'importance considérable qu'a eu le théâtre pour les jésuites.
Le théâtre, c'est le... Alors, on parlera plutôt d'exercice dramatique, en l'occurrence, parce que ce qui les intéresse, c'est surtout la tragédie, et non pas la comédie, qui trouve un amusement. Mais c'est l'idée de mettre, une fois encore, en mouvement les élèves autour de textes classiques. Donc, c'est une manière de les assimiler, mais c'est aussi une manière d'habiter son corps et de se situer dans l'espace. Il ne faut pas oublier que le but ultime, c'est de former à la rhétorique. Comme il a été bien dit, c'est de pouvoir prendre la parole, c'est de pouvoir convaincre, de persuader son interlocuteur. Or, il faut occuper un espace, il faut travailler une gestuelle, travailler sa voix, par exemple, et aussi poser son corps.
Le sport aura donc de l'importance, ou aussi bien le cinéma. Vous avez beaucoup étudié le rapport du cinéma et des jésuites, Philippe Roger, et aussi bien la danse. On parlera peut-être musique dans un instant. Je voulais... juste signaler que vous nous avez parlé de Lyon, non loin de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Villefranche. Et à Villefranche, il y a le collège dont vous avez fait l'objet de votre thèse de doctorat. On va retrouver plusieurs fois dans l'émission des traces de ce collège qui s'appelle Montgré.
Eh oui, grand collège.
La devise, c'est quoi?
Un peu oublié. Le gré de Dieu, Montgré.
Ah, et ça fait des Montgréens.
Voilà. Oui.
Collège peut-être un peu oublié, mais enfin qui a eu son importance. Les jésuites ont fait l'objet, je disais, de jésuitophobie. Ils sont dissous à la fin du 18e. Ils ont déjà été interdits en France avant d'être dissous par le pape. Ils ressuscitent en 1814, et notamment parce qu'on attend d'eux qu'ils reprennent leur tâche d'enseignement. Et Montgré, à Villefranche-sur-Saône, renaît en 1850, quoi, après la loi voilà. Fallou, au milieu du Second Empire.
Et sur un modèle du collège de l'Ancien Régime, c'est-à-dire à la faveur d'une donation, un établissement à la campagne qui devient un pensionnat assez rapidement et surtout qui vit avec une ferme comme les collèges auparavant vivaient à la faveur d'une dotation.
Mais l'histoire des jésuites est très mouvementée. Avec la crise des congrégations en 1880, les jésuites commencent à quitter Montgré. Ils y reviendront en 1913. Parmi les grands élèves de...
Un certain Pierre Teilhard de Chardin.
Oui, mais Audrey Ripouille a choisi Benjamin Biolay, qui est un Montgréen.
Souvent je me suis réveillé avant le lever du soleil, avant de quitter l'hôtel, engoncé dans mon complet croisé. Si souvent j'ai gardé pour moi mes vicissitudes et mes vices, tourments, tournis, turpitudes, l'horreur de souvenirs passés. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame. Sa flamme dans une orgie de gamme. Padam, 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 pam, pam.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Troisième épisode de notre série sur l'histoire de l'éducation avec aujourd'hui les collèges jésuites. Philippe Roger, vous avez étudié le collège de mon gré, de mauvais gré, les jésuites ont dû partir au moment de la crise de des congrégations. Ils reviennent en 1913. On peut dire un moment, d'ailleurs, un mot de ce moment de l'exil, parce que des familles honorables sont très attachées aux jésuites et vont les suivre en exil.
Oui, à tel point que les jésuites sont obligés d'ouvrir, au-delà des frontières, des collèges, qu'on appellera des collèges d'exil. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être célèbres. C'est celui d'Antoin, dans lequel un certain Charles de Gaulle est allé poursuivre sa scolarité, ayant quitté Paris. Mais aussi Bolango pour l'Italie. Chaque province...
Jersey.
Chaque province, les quatre provinces qui constituaient l'ensemble du territoire français, ont leur collège à l'étranger.
Je parlais d'Emmanuel Macron, mais le général de Gaulle, c'est un produit vraiment des jésuites.
Hein. Ah, tout à fait. C'est une famille.
Comment ça, la famille ?
Son père était professeur à Paris, rue de Vaugirard, enseignant d'histoire. Puis ensuite, il a été directeur au moment où les jésuites ont quitté la France. Et il a donc envoyé son fils au collège d'Antoin.
Le premier exil du général de Gaulle, c'est le collège jésuite. Jean Lacouture, historien des jésuites.
Les jésuites apprennent à leurs élèves à bien construire un raisonnement, une pensée. Et les fameux trois points, la trinomie, enfin, du discours, que les jésuites enseignent, et dont le plus illustre exemple est le général de Gaulle, qui est un élève des jésuites tout à fait, un peu remarquable, évidemment, pas très banal, par beaucoup de points, mais qui, l'écriture du général de Gaulle est vraiment une écriture qui sort des élèves des jésuites, un petit peu pompeuse quelquefois, un peu gréco-latine, ou plutôt latine, c'est vrai. Il y a beaucoup de latin chez de Gaulle. Il y a beaucoup de jésuitisme, chez de Gaulle, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est très bien composé, c'est construit vraiment selon des méthodes que les jésuites ont enseignées, inculquées à leurs élèves et dont de Gaulle donc est un exemple parfait.
La couture biographe de Gaulle a consacré deux volumes aux jésuites et il y a à peine un chapitre consacré au collège des jésuites si nombreux pourtant. C'est le collège Tivoli de Bordeaux où Jean Lacouture lui-même était élève. Et il s'y fait la comparaison sans arrêt entre ce collège jésuite et d'autres issus, d'autres ordres religieux qui ressemblent étrangement, mais avec des différences, aux jésuites. Parce que le modèle jésuite a été appliqué par d'autres ordres.
Ah, diffusé. C'est le modèle depuis le XVIe siècle qui finit par s'imposer. La Ratio Studiorum, de toute façon, elle est regardée par les autres congrégations religieuses comme la méthode d'enseignement qui fonctionne.
Mais c'est aussi le modèle de l'enseignement secondaire public. C'est pas par hasard que le collège de Clermont est devenu le lycée Louis-le-Grand.
Voilà. À partir de Napoléon, finalement, on reconstruit l'école à partir de ce qu'on avait voulu abolir au moment de la Révolution.
Cependant, la jésuitophobie demeure. Et la restauration de l'ordre, à partir de 1814, l'a fait grandir. Béranger, le grand poète national. Homme noir, d'où sortez-vous ? Nous sortons de dessous terre, moitié renard, moitié loup. Notre règle est un mystère. Nous sommes fils de Loyola. C'est nous qui faisons et refaisons les jolis petits et les jolis garçons. Il y a déjà ce thème avant même qu'ils n'aient rouvert leur collège, d'ailleurs en 1820 ou en 1830 chez Béranger. La littérature anti-jésuite, vous en retiendriez quelques livres importants, significatifs, intéressants ?
Oh, on pourrait citer Michelet,
oui, bien sûr.
C'est court, au Collège de France. Mais un auteur qui est dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, c'est Gabriel Compéré. Alors peut-être un auteur méconnu, mais dans la notice jésuite du fameux dictionnaire de pédagogie, alors ce Gabriel Compéré, qui était un professeur de philosophie, professeur de pédagogie à l'école Fontenay, ensuite recteur d'académie, a écrit un article absolument terrible sur les jésuites, et qui semble complètement décalqué de ce qu'on dit au début du 19e siècle, contre une obéissance aveugle, absence de liberté totale.
Tous deux, on pourrait recommander un livre qui vient d'être superbement réédité par Bleu Autour, qui s'appelle Sébastien Roch. C'est un livre autobiographique d'Octave Mirbeau. Son père, quincaillier dans l'Orne, l'envoie dans un collège aristocratique de jésuites à Vannes. Et donc, son intégration est difficile. Il y a un côté lutte de classe, hein.
Eh oui.
Et il y a quand même un père, il y a plusieurs pères qui s'intéressent à lui, et puis il y a un père, un jeune père, dont on sait qui il est dans la réalité, ça a été un grand prédicateur jésuite plus tard, qui s'intéresse de manière un peu perverse au jeune Sébastien.
Oui, et hélas, il passe à l'acte. Et ce pauvre garçon, malheureusement, subit une sorte de double peine. C'est-à-dire qu'à la fois, il subit le viol, et en même temps, il est mis au banc et du collège.
Il est renvoyé du collège.
Oui.
Oui, mais c'est toute la subtilité des jésuites, là, Philippe Roger. Le père supérieur n'est absolument pas dupe de ce que fait le père violeur. Et il dit au gamin, après l'avoir renvoyé, « Mais tu es libre de revenir, mon ami, tu es notre fils. »
Ah, mais il y a bien d'autres...
Qu'est-ce que ça veut dire, liberté, dans ce contexte-là? Qu'est-ce que c'est la liberté dans un collège jésuite? On est maintenant au 19e ou au début du 20e.
Ah, liberté, en principe, c'est la capacité de diriger sa conduite, telle que c'est entendu. Alors évidemment, sous le commandement de Dieu, mais il ne faut pas créer et susciter de scandale dans ce milieu-là. Donc au 19e siècle, souvent, on peut exclure des élèves. Alors il y a un ancien élève qui est très connu, hein, Gabriel Jogan, Léo Taxil, qui donc a maille à partir avec les jésuites, mais qui reviendra chaque année visiter ses anciens professeurs.
Qui sera un grand polémiste anti-clérical. Le séquestré, c'est une pièce adaptée d'un livre autobiographique d'un ancien élève des jésuites, Bernard Ponty. Alors, qu'est-ce que c'est la liberté pour cet enfant à qui le père préfet, pour cet adolescent, à qui le père préfet a confisqué sa correspondance et qui a donc des raisons de manquer à l'appel?
Où est votre équipier? Vous en êtes responsable? Où est Alain Feltan?
Il n'était pas à l'étude de 5 heures.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Et vous ne me l'avez pas signalé?
Non.
On a cherché partout.
Ce n'est pas une fugue. Tu ne peux pas le croire.
Et pourtant.
J'ai été à Paris pour revoir Hélène Val. Cette fille que j'ai rencontrée pendant les grandes vacances. Elle ne m'écrivait plus depuis le mois de novembre. Je n'ai jamais su pourquoi.
C'est moi qui ai arrêté votre correspondance. J'ai écrit à cette jeune fille de cesser de détourner ton attention, dans ton intérêt et dans le sien. Une jeune fille de 19 ans ne peut s'intéresser à un garçon de ton âge.
Hélène m'aimait?
Eh bien, je lui ai demandé de t'aimer autrement. Tu supportes cette épreuve, tu verras que j'avais raison. Cependant, tu es libre. Libre de partir, si tu veux. De rejoindre Hélène, si tu veux. Nous te regretterons. Nous ne te retiendrons pas.
Alors, je fais tout pour interrompre la relation que tu connais, mais tu es libre.
Eh oui. On le met face à sa conscience, mais on l'oriente. On la guide, on essaye de l'éclairer.
Oui, mais ça veut dire que pour un préfet jésuite, chaque acte que pose l'adolescent a des conséquences et qu'il doit les connaître.
Oui, mais ça va loin parce qu'au-delà des collèges, parce qu'on poursuit la formation et l'accompagnement de ces élèves, pensons à la Seconde Guerre mondiale, à la question aussi du rapport à l'autorité et au pouvoir. Certains vont voir leur père spirituel et leur disent, est-ce qu'il faut que je rejoigne la résistance ou est-ce qu'il faut absolument que j'obéisse au pouvoir et que je m'engage dans le STO? Et à ce moment-là, souvent on dit, tu fais ce que tu dois faire.
Oui, mais ça, on sent le Lyonnais en vous, le père de Lubac et la résistance jésuite à Lyon. Dans l'histoire de Mongrais, votre collège préféré à Villefranche-sur-Saône, il est un personnage qui était préfet ou recteur, qui s'appelait le père Lyonnais, et qui, justement, a vécu l'occupation. Une dame arrive après l'occupation et dit, écoutez, hein, vous avez vu mon père, hein, je me suis occupé de mon fils, il a jamais rien eu qui lui manque, il est toujours arrivé à l'heure, j'aurais bien fait du marché noir pour bien le nourrir. Et qu'est-ce que répond le père Lyonnais?
Quelle horreur, quelle catastrophe.
Vous l'avez gâté. Quelle catastrophe, madame.
Vous l'avez gâté.
Oui. Vous l'avez gâté, vous l'avez privé du commerce avec
le monde. Et sa réalité.
Et la réalité pendant la guerre. Je voudrais m'arrêter avec vous sur cette devise du père Lyonnais. Il faut former les premiers citoyens pour le service fraternel. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on est dans un tournant dans l'histoire des jésuites. On est dans le. Il y a deux, je dirais, mouvements. Il y a d'abord le mouvement d'éducation générale, mais il y a à partir de la fin du 19e aussi un engagement dans le social. Et donc, il faut former quelqu'un qui soit utile à la société.
Reportage dans les années 60, maintenant, nous sommes à Reims, au collège Saint-Joseph. Chaque acte qu'on pose a des conséquences, c'est-à-dire que lire le Satyricon de Pétrone, c'est pas très recommandable.
Dans un collège jésuite comme le vôtre, mon père, les lectures sont-elles encore surveillées? Je veux dire, la censure existe-t-elle comme autrefois?
Prenez l'autre jour le cas du Saint-Irikouane. Bah, le fait qu'il y ait le Saint-Irikouane de Pétronne qui est dans toutes les gares à l'heure actuelle dans le livre de poche, c'est inadmissible de le trouver dans un collège, mais même, j'allais dire, entre adultes. Ce sont pas des choses qu'on laisse traîner, pas plus qu'on laisse traîner des choses malodorantes.
Oui, et Voltaire, alors
Il le trouve ennuyeux.
Dans les cafés, il arrive qu'on nous y voit. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, on est comme tout le monde.
Oui, mais il faut dire que, par exemple, pour les cafés, c'est très difficile, parce que, normalement, l'accès nous en est interdit par le collège. Alors, comme c'est souvent là où on discute entre garçons de 18-20 ans, c'est difficile, quoi. Alors, discuter dans la rue, c'est pas bien amusant.
Non, surtout quand il pleut.
Oui, ça fait un pied-à-terre, quoi. Comme il nous est refusé, ben, y a plus de discussion, quoi.
Vous sortez avec des filles. Enfin, là, vous sortez avec des filles. Les collégiens, eux, fréquentent des filles.
Mais
oui, de toute
façon. Secrètement ou pas?
Je pense que c'est nécessaire. Mais secrètement, parce que par exemple, nous avons quand même des amis, et quand ils s'assoient avec nous à la terrasse d'un café, ils ont peur.
Au fond, c'était peut-être la même chose dans beaucoup de lycées publics à l'époque. Sauf que les lycées publics étaient bien davantage démocratisés que l'enseignement jésuite. Ignace voulait la gratuité. Les familles honorables se sont attachées au collège jésuite. Les jésuites ont eu du mal à faire de la sociologie scolaire. Ils ont fini par s'y mettre et ils ont dû reconnaître qu'ils servaient d'abord les enfants des classes supérieures. Alors quand Philippe Roger... Les chefs des jésuites répètent depuis deux générations « Nous avons une option préférentielle pour les pauvres. Ceux qui jésuites continuent à œuvrer dans des collèges sont dans une situation inconfortable. »
Ah, ils essayent d'améliorer le confort en ouvrant ces collèges à de nouvelles populations. Mais tous les collèges ne sont pas uniformes. C'est ça le propre de la compagnie. Il y a des collèges qui accueilleront une population scolaire plus populaire. Un article de Bruno Pousset, là, récent, qui montre comment, depuis les années 60, il y a une sorte de création de collèges, je dirais, pour classe moyenne, d'autres qui continuent, comme celui d'Amiens, par exemple, à accueillir une population plus favorisée.
Je ne sais pas pourquoi vous citez celui d'Amiens. Moi, je citerai Franklin, tout près de la maison de la radio, qui forme, en effet, beaucoup de dirigeants et de dirigeantes politiques. Ouais. Tout de même, il y a une certaine difficulté dans les 14 sites, dans quelques-uns des 14 sites que conservent les jésuites en France. Je voudrais m'arrêter sur le mot « excellence », parce que vous avez titré votre livre chez Beauchesne « Le goût de l'excellence ». Le mot n'était pas dans le vocabulaire d'Ignace de Loyola. Est-ce que l'excellence, il faut l'entendre au sens, je ne sais pas, moi, asiatique du mot aujourd'hui, la course, la surchauffe? Non, ou est-ce que les jésuites, c'est une antidote à l'excellence, entendu ainsi?
Non, je crois que c'est l'idée de permettre à chacun de se parfaire et d'arriver au meilleur de ses possibilités, d'exploiter au maximum ses capacités, mais sans être précisément poussé ou chauffé.
Une précision, vous avez été élève de jésuites?
Du tout.
Ah bon, vous avez parlé parfaitement en homme libre aujourd'hui. Exactement. Philippe Roger. Votre livre donc chez Beauchesne, en attendant un encore plus important. Voici maintenant le moment des messages publicitaires après le générique. Audrey Ripouille, Élise Christophe, Aurore Juvenel, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, c'était l'équipe de La Marche de l'Histoire.